Radio Capi, grand témoin.
Heureuse de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin de ce dimanche. Il est professeur des universités, écrivain et journaliste, Charles Djungu Simba. Et notre grand témoin d'aujourd'hui, Charles Djungu Simba, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Je suis Kéline Kouté, Willem Nungemba à la mise en onde. Bienvenue à tous dans votre magazine. Charles Djungu Simba, comment ça va?
Ça va bien. Je n'ai pas beaucoup à me plaindre. Ça va bien.
La vie est belle?
Oui, elle aurait été belle. Bon, ça va, ça va.
Ça va. Ouais. Alors, avec vous dans notre entretien, nous allons vous présenter auprès de ces nombreux auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Comme je l'ai dit dans les sommaires, vous êtes professeur des universités, écrivain et journaliste. Ce qui va nous intéresser le plus dans cet entretien, c'est votre casquette d'écrivain. Qu'est-ce que vous exploitez dans votre œuvre littéraire? On parlera aussi de l'engagement citoyen et politique des hommes des cultures congolais et de l'image du Congo et des Congolais véhiculés par les œuvres des écrivains congolais. Tout ça, c'est dans cette émission, mais cela ne nous empêchera pas d'évoquer dans cette émission d'autres aspects de votre vie, Charles Djungu Simba. On va faire un grand pas déjà en arrière pour parler d'abord de votre enfance. Vous êtes né à Kamituga, dans la province du Sud Kivu, en 1953.
C'est vrai.
Et c'est là où vous passez toute votre enfance?
Une bonne partie, en tout cas. Une bonne partie. Kamituga, c'est à 180 kilomètres de Bukavu. Donc, j'ai été aussi pendant longtemps à Bukavu.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Assez modeste. Je suis un enfant d'un ancien soldat de force publique. Et voilà, j'ai une condition très modeste, mais je n'étais pas dans la pauvreté. Hein. J'y vais tant bien que mal à l'époque où la vie semblait couler comme un fleuve tranquille.
Je sais que vous avez beaucoup de souvenirs de votre enfance, mais lequel vous a le plus marqué?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'avoir vécu à Kamituga, qui est une cité minière, mais qui fait partie de ce qu'on appelait les centres extra-coutumiers, où l'on pouvait trouver des gens de toute provenance qui venaient travailler dans les mines, et on n'avait pas conscience de ces étiquettes qu'on nous brandit aujourd'hui, des tribus, des clans. Je dis pas qu'on s'était dans une harmonie parfaite, hein. Il y avait la ville, il y avait les villages autour, enfin la ville, le centre, les villages tout autour, et ça semblait aller. On a été surpris par les événements, évidemment, parce que si on avait su ce qui allait venir, les gens allaient consolider ou rassurer leurs concessions, parce qu'il y a des problèmes de terre aujourd'hui. Il y a des problèmes de père et de mère qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, ça semblait ne pas poser de problème.
Vous êtes marié, père de 3 garçons et une fille?
Oui, il semble.
Il semble.
Une façon de parler, hein. Je suis parce que ma fille m'appelle son fils, donc, ouais, donc comme elle porte le nom de ma mère, elle m'appelle son fils, donc c'est pour cela que j'ai dit ces relations sont peut-être transitives.
Vous êtes titulaire, voilà, d'une licence en langue et littérature française obtenue en 1976 à l'université de Lubumbashi.
Oui, à la Kasapa.
Donc vous quittez Bukavu après vos humanités pour vous retrouver à Lubumbashi.
J'aurais pris une autre destination si cela m'était possible. Je devais normalement venir à Kinshasa, faire de la médecine, ou alors aller à l'étranger, parce qu'à l'époque, nous faisions en plus de l'examen d'État, il y avait une autre épreuve, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui permettait à ceux qui étaient mieux placés d'avoir une bourse. Mais il paraît que nous avions eu la bourse, mais d'autres ont pris nos places parce que nous, on était à l'intérieur. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Examen de maturité qu'on appelait ça, je ne me souviens plus parce que bon, c'est pas à l'époque de Noé, mais bon, ça fait déjà un petit temps. Et c'est comme ça que j'ai, désespoir de cause, je me suis dit, ben, on va à Lubumbashi. Parce que j'avais fait des humanités littéraires, donc latin philo. Donc,
c'était votre choix de faire langue et littérature française ou vous avez été orienté?
Non, c'était ça. On appelait ça philologie romane, puis après langue et littérature française. Aujourd'hui, on parle de lettres et civilisation française. Les appellations changent, mais la réalité est presque la même.
Docteur en philosophie et lettres de l'Université d'Anvers en 2004.
C'est ça.
Là, vous avez obtenu une bourse ou
Non, je me suis trouvé à l'étranger, en Belgique et en France, parce que j'ai fait une thèse en co-tutelle, Metz, l'université de Metz, l'université de Lorraine et l'université d'Anvers. Je me suis trouvé à l'étranger parce que, bon, on a connu des problèmes ici. Hein. J'ai fait l'objet de beaucoup de choses. Bon,
si je regarde vous ça. Vous êtes exilé, professeur.
Voilà. Je ne voulais pas prononcer. Je voulais pas prononcer
le
mot. Cet
épisode de votre vie.
Je me suis échappé pour éviter de pourrir dans les prisons ou de subir d'autres avanies. Et donc, je suis passé. J'étais journaliste à La Voix du Zaïr, à la RTNC. Et à deux reprises, successivement, j'ai été révoqué. J'ai été révoqué, je ne sais pas pourquoi on m'a révoqué, mais je crois avoir fait ce que je devais faire, mais ça n'a pas plu à certaines autorités, à certains responsables, dont mon étudiant.
De l'AFDEL.
Oui, de l'AFDEL, ceux qui en sont venus après. Dont mon étudiant, qui était le patron de la RTNC, Dieu et son âme, Kadjangou. Enfin, c'est lui qui exécutait les ordres. Et donc, je suis parti, j'ai quitté la RTNC, je suis allé à Radio Raga FM, ils m'ont poursuivi là-bas, ils ont fait de menaces, Monsieur Zaïr qui dirigeait, je crois que c'est lui le fondateur, il dit, mais si vous ne libérez pas cet homme-là, si vous ne le...
licenciez pas?
Oui, vous aurez des problèmes. J'ai quitté là-bas. J'étais parmi les premiers journalistes à cette chaîne Raga FM. Je suis allé fonder aussi la radio télévision Elikia, RTCE, catholique Elikia. Et là, j'ai eu aussi des petits problèmes. Ça, c'était interne. Et comme j'ai vu que ça commençait à faire un peu trop, je me suis dit, je veux voir ailleurs. Je suis allé en exil. Bon, je me suis éloigné un peu du pays.
En exil, est-ce que vous avez continué avec la carrière de journaliste ou vous avez fait autre chose?
J'ai été longtemps, pendant un temps en tout cas, collaborateur à la RTBF. J'ai aidé une consoeur qui est morte, qui faisait l'émission Dounia, Madame Remich. Je l'ai aidé à travailler, j'ai fait des collaborations par-ci, par-là. Mais le gros de mon activité, c'est... Je me suis relancé dans l'enseignement parce que je suis enseignant.
Et là, vous avez collaboré, vous avez travaillé comme chercheur en littérature pour l'université d'Anvers.
D'Anvers, et puis de l'université de Metz. C'est en France, c'est pas très loin de la Belgique. Voilà.
En 90, vous avez travaillé comme conseiller en matière de presse et culture dans le cabinet du Premier ministre Étienne Tshisekedi.
Wamulumba.
Oui.
Oui. Oui,
c'est lui-même qui vous a recruté ou c'est
Je ne le connaissais pas personnellement. Je suppose qu'il a entendu parler de moi et que il a pensé que je pouvais lui être de quelque utilité. Donc j'ai travaillé avec lui.
Comment vous vous retrouvez d'abord en journalisme, professeur?
Ah, bonne question. Je suis enseignant. J'apprends qu'on recrute à la RTNC ce concours. Et je vais participer à ces concours. Nous sommes plus de 300 candidats et par élimination, on va retenir 10. 5 vont aller à la radio, 5 à la télévision. Dans un premier temps, après, il y a eu de croisements, tout ça, des gens qui sont passés d'un média à l'autre. Je vais faire la radio parce que c'est ma passion à l'origine. J'ai toujours été un grand admirateur, un grand majeur des ondes. Et donc j'avais là l'occasion de mettre à profit ma passion. Mais après, on va me demander de faire la télévision aussi. D'abord comme remplaçant d'un collègue qui venait de partir. Je vais présenter une émission, note de lecture. Je pense qu'ils me l'ont proposé parce qu'ils savaient que j'étais écrivain et que j'avais une proximité avec les lettres. Puis j'ai fait le journal. Alors il m'arrivait beaucoup de fois, hein, pendant un certain temps là, de faire la radio le matin. Je vais donner cours. Le soir, je fais la télévision. Et
ça voilà. Pesait pas trop sur vous?
Non, nous avons fait ça. J'ai un ami avec qui vous m'avez vu tout à l'heure. Nous avons suivi ce rythme-là. On a d'ailleurs commencé presque ensemble la carrière. Non, on était jeunes. On avait l'idéal de travailler, de servir, d'être au service de nos compatriotes. On l'a fait. On avait l'âge. Les conditions étaient difficiles, mais qu'est-ce que vous voulez?
Alors, on va faire une pause, professeur. On va écouter quelqu'un que nous avons contacté, qui vous connaît très bien, qui nous a parlé un peu de vous. On va l'écouter et puis on va revenir dans ce studio. D'accord?
Volontiers.
Bonjour, madame.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien, et vous?
Ça va bien, merci. Nous sommes dans ce studio avec le professeur Charles Djungu Simba. Vous le connaissez?
Je le connais très bien, très bien.
Il est quel genre de personne?
Alors, le professeur, il est non seulement prof de profession, mais il est aussi prof dans la vraie vie. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et d'instructions et qui téléporte ça dans sa vie de tous les jours. Donc, il n'est pas rare que, voilà, dans la vie de tous les jours, si vous faites une petite faute de grammaire, eh ben, il vous corrige, mais voilà, c'est quelqu'un de très humain, avec un énorme cœur, avec voilà, une intégrité très louable. C'est quelqu'un de très intègre, voilà, très très honnête, très généreux, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, il est presque parfait.
Il est presque parfait. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas en lui?
Qu'est-ce que j'aime pas en lui? Bon, je dirais pas que j'aime pas, mais...
Vous l'appréciez pas, peut-être, que vous vouliez voir améliorer, peut-être, des choses qu'il peut améliorer, qui vous feraient plaisir.
Il est très impatient. Il peut être très impatient, le prof. Donc, et parfois aussi sévère, vu qu'il est prof. Mais je pense que, voilà, ouais, il est très impatient. Quand il s'énerve, il peut très vite s'énerver, mais quand il se calme, aussi très vite. Mais voilà, je dirais qu'il s'énerve très vite.
Vous connaissez bien le prof Charles avec qui je suis dans ce studio. Il aime la musique?
Bien sûr, c'est un grand fan de musique et c'est un grand danseur aussi.
Ah bon, il aime quel genre de musique?
Il aime bien les grands classiques, les musiques passées, comme ça en tête j'ai pas de nom, mais voilà, il aime bien les grands noms de la musique, autant bien congolaise que française. Voilà, il est voilà. Parfois il peut vous déranger avec une chanson toute une journée. Voilà, c'est ma mère qui est à côté qui me signale ça.
On peut dire bonjour à maman.
Oui.
Bonjour, bonjour. Bonjour maman, comment vous allez?
Ça va, et vous?
Ça va bien maman. Bon, on n'a plus de secret. Il a deviné la voix de sa fille, donc c'est maintenant sa femme qui est avec nous en ligne. Maman, quelle est la chanson préférée de votre mari?
Ah non, il a des chansons comme ça. Le matin, il peut se réveiller, il commence avec une chanson, soit ancienne, soit nouvelle. Mais il est beaucoup, ou soit carrément des danses, une ancienne, il vous fait découvrir même une chanson que vous ne connaissiez pas. Laquelle? Mais il y en a plein, hein, je vais parler.
Il n'y a pas un titre qui vous vient à l'esprit?
Avec, par exemple, Nico Cassanda, il aime bien la chanson de Calais
Jeff?
Ou alors Bantu de la capitale. Tamouya, Zongisa motema sima kamuya. Et il peut vous mettre ça toute la journée.
Ah, d'accord.
Il aime bien le bantou de la capitale, style, voilà, même classique avec Hervé. Hervé, c'était pas moi, puisqu'on ne vivra jamais toutes
des chansons. De Francis Cabrel, je pense.
Francis Cabrel, voilà.
Francis Cabrel, je pense que celle-là, il aime beaucoup. Ouais. Ah. Ça, c'est dans ses top.
Dans ses top 5 ou top 10.
Oui, top 10.
Alors, un mot à papa qui vous suit en direct dans les studios des Radio Okapi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Papa, papouné, c'est mon fils, hein, parce que j'ai le nom de ma grand-mère. Donc, je suis un peu sa maman en même temps.
Ok.
Donc, oui, qu'il reste comme il est, très drôle, toujours de bonne humeur, on l'aime beaucoup, moi je l'aime énormément, c'est le premier homme de ma vie, donc il a une très grande place dans mon cœur, qu'il ne change pas, sauf qu'il soit un peu plus patient, hein, papa, qu'il soit aussi moins sévère aussi parfois, mais... Et moins gourmand aussi, voilà.
C'est quoi son plat préféré? En parlant de gourmandise, c'est quoi son plat préféré? Qu'est-ce qu'il a mangé?
Ses plats préférés, il n'est pas très compliqué. Donc, il en a beaucoup, la volaille, le poisson, mais le gigot d'agneau. Ah oui, ça c'est toujours ma fille, il me faut un gigot d'agneau. Quand il revient de voyage, il est où mon gigot? Il est où mon gigot? Et donc, voilà, d'habitude, j'anticipe et je lui prépare son gigot, je lui cache ça. Mais voilà, le gigot d'agneau, il aime beaucoup avec un bon vin rouge.
Merci beaucoup, Douce. Merci
oui,
aussi à maman.
Rien, hein. Merci à vous. Merci beaucoup à vous et gros bisous à toute l'équipe, à papa. Et,
merci. Et voilà. Merci beaucoup. Birsou, papa chéri, c'est comme ça que je l'appelle.
Merci, au revoir. Papa chéri est très ému dans ce studio de Radio Okapi. Moi-même, je suis très ému, professeur Amo, après avoir écouté votre fille et votre femme.
Ce sont des traîtresses. Je comprends maintenant. J'ai causé avec toutes les deux ce matin et me demandais qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez, quel est votre programme. Et bêtement, enfin, naïvement, je répondais. Mais j'aurais pu imaginer qu'elles me faisaient ça, qu'elles allaient me faire ça. Et comment vous êtes introduit
Ah, ça, c'est un secret professeur.
Un professionnel.
Hein. Douce et maman, merci beaucoup. Papa est très ému. Vous avez réussi à le faire pleurer. Hein. Moi-même, je suis très émue de le voir pleurer. Merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage sur le professeur Charles Djungu Simba. Tu vas payer pour ça.
Oui, surtout que j'ai les larmes faciles.
Alors, Francis Cabrel, c'est votre musicien préféré?
C'est l'un de mes musiciens.
L'un de vos musiciens préférés?
Oui, oui, oui.
Une chanson de Francis vous ferait plaisir, professeur?
Très, très plaisir.
L'encre de tes yeux?
De tes yeux.
Alors, on va demander à la technique de nous balancer l'encre de tes yeux pour le plaisir du professeur Charles Djungu Simba que nous recevons aujourd'hui dans notre magazine Le Grand Témoin. J'espère que cette chanson fera plaisir aussi à votre famille qui nous suit depuis la Belgique, professeur Charles Djungu.
Bien.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire. la dictée. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Charles Djungu Simba est celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Il est professeur des universités, écrivain et journaliste. Comme je l'ai dit, professeur, c'est votre casquette d'écrivain qui nous intéresse le plus aujourd'hui dans cette émission. Parlons à présent de vous, Charles Djungu Simba, l'écrivain. À quel moment vous commencez à écrire?
Le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de gratter. Sans jamais chercher à savoir qu'est-ce que ça deviendrait. Donc, j'écris depuis que je suis à l'école, depuis que j'ai...
À l'école primaire?
Primaire, depuis que je maîtrise l'alphabet, j'écris dans des revues scolaires, dans des concours, je participe à des concours d'écriture, j'écris jusqu'à à ce jour où je produis mon premier texte publié chez Mediapol, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, dans les temps c'était édition Saint-Paul-Afrique. C'était un recueil de contes, je crois, inspiré de nos traditions.
Est-ce que vous avez été inspiré ou influencé par quelques écrivains?
Oui, de par ma formation, hein, j'ai lu les latins, parce que j'ai fait de l'humanité gréco-latine, j'ai lu les latins essentiellement, et j'ai lu toute la littérature française, hein, je le dis sans modestie, j'ai tout lu, tout ce qui me passait. J'étais un rat de bibliothèque, hein, que ce soit au petit séminaire, parce que j'ai fait le petit séminaire de Mongombe, que ce soit au collège Notre-Dame de la Victoire à Bukavu, Alpha Djiri aujourd'hui, et puis à l'université évidemment, là c'était par obligation, on devait lire des livres pour des séminaires de lecture, donc je lis tout le temps. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté avec cette vilaine habitude. J'ai toujours un livre à m'apporter, ou des livres à m'apporter. C'est ma nourriture.
Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages, professeur. Mm-hmm. Vous parlez de quoi dans votre œuvre littéraire?
Je parle de tout.
Touchez à tout?
Oui, je suis une éponge. Il y a des œuvres littéraires, de romans, de poésie, de contes, tout ce qui peut relever de la fiction. Mais il y a également des essais, des textes plus réfléchis, il y a l'argumentation, il y a, une écriture beaucoup plus consciente, enfin, tout est conscient, disons, parce que là je suis plus dans la démonstration, je veux dire. Voilà, je parle un peu de tout. Mais de tout, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de thème privilégié. Hein. Ceux qui me lisent, me critiquent dans le bon sens. Hein. Ils disent que je m'attaque à des problèmes de société, de bonne gouvernance, de dictature dans tous les domaines. Hein. Voilà. Mais je pense que
ceux
c'est une lecture.
Ce sont ceux qui vous lisent qui vous disent ça, mais vous-même... Vous ne vous en rendez pas compte?
Ils ne font pas que me le dire, ils l'écrivent. Hein, ils écrivent. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que je pense que c'est une lecture biaisée, enfin, une lecture partiale. Je parle de... La politique, si c'est ça qu'ils veulent dire, la politique est dans tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons est subi les contre-coups, les à-coups de la politique. Et donc, peut-être que la dose est plus consistante que ça, mais enfin, je leur laisse lire, dire ce qu'ils veulent. Hein. Je n'ai pas à intervenir dans leur lecture. Mais si je devais me recenser moi-même, me parler de ce que j'écris, moi je dirais que j'écris pour la vie. J'aime la vie et je voudrais que ce qui nous empêche de vivre, de tourner ce qui nous crée des problèmes pour que la vie soit un calvaire, que la vie ne soit pas cette chose heureuse que nous sommes censés avoir hérité de nos parents, selon la légende, hein, du paradis terrestre, tout ça. Mais ceux-là ne sont pas épargnés par mon scalpel. Hein, voilà.
Professeur, on sait que à une époque, les jeunes, j'imagine qu'aussi qu'à votre époque, la lecture intéressait beaucoup la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les jeunes ne s'adonnent plus trop à la lecture, on n'a même plus beaucoup de bibliothèques au Congo. Professeur, comment on peut susciter ce goût de la lecture auprès de la jeunesse congolaise aujourd'hui?
C'est un vaste programme, hein, mais je pense que on n'est pas juste de dire des choses pareilles sur notre jeunesse. Non pas que je les excuse, j'excuse les jeunes, mais je me dis dans une société pourrie qu'est la nôtre.
Elle est pourrie, notre société?
Pourrie.
Vous parlez de la société de façon générale ou la société congolaise en particulier?
Congolaise. C'est celle-là que je connais le mieux. Elle est pourrie, elle se plaît dans cette pourriture. Ce serait miraculeux de s'attendre à ce que seulement la jeunesse puisse avoir un comportement correct. J'ai écrit récemment dans les réseaux que on était un peu sadique de faire subir encore aux élèves du secondaire l'épreuve de dissertation. Moi, je me demande comment ils peuvent disserter. Les jeunes qui sont autour de moi, que je vois, à peine qu'ils parlent la langue française. Et on leur demande de disserter.
Et vous voulez qu'on annule
qu'on revoie l'école. On revoit l'école. J'ai fait des tournées, il m'arrive parfois de présenter des livres dans les écoles. C'est toute l'école qui est pourrie. Et c'est déjà moins pourri qu'à l'université. Les étudiants qui nous arrivent à l'université, en première année, je dis qu'ils sont moins... je ne veux pas être méchant, mais ça peut aller. Ça peut aller. On voit qu'ils ont encore des notions, tout ça. Mais plus ils traînent à l'université aujourd'hui, plus ils s'abrutissent.
Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour aider ces jeunes-là à la lecture?
Il faut revoir tout.
Tout le programme scolaire, tout le programme.
Pour le domaine de l'éducation, oui. Il faut tout revoir. Les enseignants, c'est pas un problème que des élèves, que des étudiants. Les enseignants aussi. Parce que
Ils doivent se mettre à jour.
Aggiornamento. Mais c'est encore, on est optimiste. Là, quand on dit mettre à jour, on devrait vraiment revoir beaucoup de choses.
Alors, vous avez parlé de la société congolaise qui est pourrie, professeur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quelles preuves vous avez pour dire que la société congolaise est pourrie aujourd'hui?
Je voyage, hein. Je voyage beaucoup. Il m'est arrivé d'enseigner ailleurs, d'enseigner au Kenya, Kenyatta University, pendant 6 ans. Donc je vois ce qui se passe ailleurs. Hein. Je vois par exemple, je prends l'exemple de l'université Kenyatta, Nairobi. C'est incroyable, incroyable. Quand vous voyez, c'est une grande université dirigée à l'époque où j'y allais, dirigée par une femme, tout est impeccable. Chaque coin est géré par une femme qui s'occupe de la propreté, de remettre les choses en règle et tout ça. Vous arrivez, vous êtes logé, nous qui venions de l'étranger, vous êtes logé dans votre chambre, vous avez votre per diem, enfin là, de l'argent pour les frais quotidiens, et à la fin, quand vous avez fini d'enseigner, vous avez votre enveloppe, vous mangez au restaurant universitaire, vous pouvez acheter des choses. La bibliothèque, n'en parlons pas. Vous restez ici, vous voyez, vous commandez des livres, vous voyez que ça vient par une poulie en haut, là, comme dans certains hôpitaux en Europe. C'est en Afrique. Hein.
Ça manque chez nous. Problème de gouvernance
Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On a confié les responsabilités à n'importe qui, n'importe comment. Et les gens ne se sentent pas redevables.
Vous dénoncez ça dans vos ouvrages?
Oui. Férocement.
Est-ce qu'il y a un lien entre littérature et politique, professeur?
Ainsi dit, ce serait comme ça c'est la politique et ça c'est la littérature. Alors que ça s'entremêle. La politique, la société, la culture, le commerce et tout ça, ça fait partie de la vie et la littérature n'est qu'une lecture de la société. Donc, il y a un lien. Il y a des gens qui évitent de parler de la société, avec tous les problèmes, et qui vont dans les étoiles, dans les firmaments. Bon, c'est de leur choix, mais ça explique aussi qu'ils ne veulent pas en parler, hein, parce que telle est leur décision. Il y en a qui prennent parti pour expliquer ou justifier certaines déviation, tout ça. Chacun fait comme il entend. Hein. Chacun fait comme il entend. Mais moi, j'essaye d'empêcher ceux qui m'élisent d'oublier qu'ils ont des responsabilités, qu'ils ont des devoirs. Voilà.
Vous, écrivain, est-ce que c'est possible pour vous d'aider à transformer la société congolaise par vos écrits?
Ce serait prétentieux. La société congolaise, la société africaine, si je me mets sur le plan du continent, a besoin plus que de la littérature hein, pour se reformer. Je crois que nous participons. C'est une fenêtre, c'est une activité. Encore qu'on ne lit pas, les gens ne lisent pas.
Justement, les gens ne lisent pas.
Oui.
Comment vous faites maintenant pour atteindre votre cible? Est-ce que lorsque vous écrivez, vous vous dites intérieurement que je vais atteindre la cible ou vous écrivez juste pour le plaisir d'écrire, juste pour qu'on parle de vous comme écrivain?
Voilà, le mot est là, écrivain, qui écrit en vain. écrivain. J'étais récemment en Allemagne, à Mainz. Mayence, c'est ça. Mayence. Et nous avions une activité concernant le Congo. Chacun y allait, hein, les littéraires, les culturels, les politiques, tout ça. Et on s'est plaint qu'il n'y avait pas de Congolais, parce que ça les intéressait. Il y a pourtant dans la ville des gens qui prenaient leur temps à boire ou à faire ceci. Et quelqu'un nous a dit, mais c'est vous-même qui êtes responsable de ça. Pourquoi ne pas ponctuer votre activité en invitant le musicien qui était dans la ville, je ne vais pas citer les noms, qui viennent. Et vous allez voir, les gens vont venir à l'occasion. Donc, il y a quelque part là aussi, de notre côté, un peu de naïveté. On croit que les gens doivent venir parce que c'est intéressant, mais il faut les intéresser. Il faut les intéresser. Pourquoi les œufs de la poule sont plus recherchés que les œufs du canard, de la canne? C'est parce que la poule fait du bruit avant de pondre, tandis que la canne ne le fait pas. Bon, comme ça qu'on explique un peu les choses dans la communication. Mais il faudrait que ceux qui écrivent ou ceux qui participent au phénomène d'écriture, les libraires, les éditeurs, les pouvoirs publics, l'école, participent à cette œuvre-là de refondation, de réforme de la culture, de nos lettres, de l'enseignement. Si à la fin vous demandez aux étudiants, aux élèves, pardon, de faire une dissertation, il faut que cette pratique, cet exercice soit intense dans les écoles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Regardez la misère de nos hommes publics quand ils parlent. dans les réseaux ou quand ils sont surpris par une caméra ou on leur tend un micro. Mais c'est horrible, horrible.
Professeur, j'ai mené une petite enquête auprès de auprès de quelques Congolais. Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'en discutant, ils ont semblé me dire qu'ils préféraient plus lire les auteurs étrangers que congolais, parce qu'ils trouvaient que les ouvrages ou les œuvres congolaises sont creuses. Est-ce que vous avez aussi la même perception?
Oui, en gros. Mais je peux peut-être pondérer un peu en disant que n'est pas écrivain qui le veut. Aujourd'hui, c'est devenu très facile d'être écrivain, les réseaux, machin, tout ça. On s'improvise, on écrit comme on peut, on publie peut-être dans les mêmes conditions. Mais une œuvre littéraire, un livre, doit être un objet esthétique, ça doit être très beau.
Or, ça doit attirer. Captiver.
Mais si vous le faites derrière la maison ou au coin de la rue, vous ouvrez le livre et puis se détache. Vous-même, un peu comme nos pasteurs, c'est toute la société qui est malade. Vous n'étudiez pas la théologie, vous ne voulez pas étudier, mais vous voulez prêcher à 10 personnes avec 4 de baffes ou de micros pour déranger la cité. Ben évidemment, le produit ne sera pas à la hauteur. Donc il y a d'abord cela, les écrivains, en un mot, les écrivains doivent maîtriser leur art. Il faut savoir c'est quoi ce que vous écrivez, c'est quoi un essai, c'est quoi un poème, c'est quoi un roman. Si vous n'avez pas ça au départ, vous allez embrouiller, ennuyer les gens qui vous lisent. Bon, je ne sais pas s'ils trouvent des lecteurs. Bon, maintenant, ils ne lisent que ce qui vient de l'étranger, mais à l'étranger, tout n'est pas beau non plus. Il faut savoir c'est qu'il y a à l'étranger. Les écrivains, c'est une espèce rare. C'est une espèce rare, mais ça se trouve. Il y a des grands écrivains qu'on trouve ici au pays, qu'on trouve à l'étranger. Faut pas non plus généraliser. Mais bon, je crois que c'est une façon d'exprimer tout simplement leur désarroi ou leur désamour. Ils le disent de façon très forte, mais dans la réalité, nous avons fait des enquêtes aussi, demander aux gens quels écrivains ils lisent, et tous, ici à Kinshasa, tous disent pas Zamenga, pas celle-ci, pas celle-ci. Et puis quand vous leur posez la question, quelles sont les œuvres que vous avez lues, ils citent les œuvres de Zamenga. Enfin, c'était une façon, la mode, suivre la mode, parce qu'ils ont appris comme ça. Moi, ma meilleure source d'inspiration, mon grand livre de chevet, c'est la Bible. Moi, je trouve que c'est incroyable, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, peu importe. Il y a de très beaux passages, il y a de très belles œuvres à l'intérieur. Moi, pas pour l'exploitation qu'on en fait, pour endormir les gens, parler, je ne sais pas de quoi. Mais je sais qu'est-ce que c'est la Bible. Je ne m'attends pas à ce que ça résolve tous mes problèmes. Mais je sais que ça peut m'aider à comprendre ceci dans des situations qui étaient celles de ceux qui sont concernés, le peuple hébreu et tous les autres. Voilà. C'était écrit par des gens. Quand vous lisez aujourd'hui, je ne veux pas vous endormir avec la religion, quand vous lisez aujourd'hui Saint Paul, vous vous demandez si à l'époque où il parlait, les gens l'écoutaient, suivaient, comprenaient. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas.
Quels sont les problèmes majeurs que connaît l'écrivain congolais aujourd'hui?
L'écrivain congolais, il existe. Ça, c'est une histoire qu'il faut. Et il est producteur. Nous avons fait avec l'ambassadeur Mova quand il était en poste en Belgique, une sorte de. Je ne sais pas comment il avait appelé ça, mais en tout cas, on a exposé les ouvrages des écrivains, on a cherché à ratisser l'âge. On publie beaucoup au Congo, beaucoup. Ce n'était pas que les écrivains, il y avait des auteurs aussi et tout ça. On publie beaucoup et on publie beaucoup depuis longtemps. Moi qui ai fait des études là-dessus, je sais que la première bibliographie africaine Et quand il y a bibliographie, c'est-à-dire il y a une comptabilité. Une comptabilité, ça signifie qu'il y a des choses à compter. La première bibliographie africaine a été faite ici, en République démocratique du Congo, Congo belge, hein, Jadot et consorts. Donc on publie beaucoup et depuis longtemps. Mais il nous manque, pas de chance, mais je ne regrette pas, il nous manque peut-être un marketeur, nos amis qui ont été colonisés par la France, je ne fais pas l'éloge de la colonisation, ont peut-être eu des coups de pouce que nous n'avons pas, parce que notre colonisateur, la Belgique, ça rime sur la France aussi. Et donc, peut-être, à l'origine, il y a ça. Mais il y a longtemps qu'on a été colonisé, hein, il y a longtemps, donc on ne peut pas évoquer ça. On a eu ici le président Mobutu, c'est Seseko Kukumu-Bendou à Zabanga, je crois que j'ai tout dit, qui a aidé dans ses rêves, dans ses visions, c'est ça le thème à la mode aujourd'hui, hein, qui a aidé à pousser la culture, la littérature. Il y a eu des concours, il y a de cela. Beaucoup d'écrivains que nous avons connus viennent de ce concours-là qu'il a organisé, Senghor, ou je ne sais plus les énumérer tous ici. Donc, il y a quelque part là un partenaire ou des partenaires qui ne prennent plus en considération leurs charges. Et la littérature devient comme un enfant déshérité, un enfant pauvre. Il manque cela. Nos écrivains pâtissent de ça. Et quand vous allez là où on aurait pu s'attendre à mieux dans les écoles, alors là, c'est la misère. Hein. C'est la misère. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Pas la littérature congolaise encore. C'est des initiatives de quelques enseignants en cinquième qu'on leur demande. À l'université, c'est pratiquement inexistant. On a eu un collègue qui a instauré un département de lettres et civilisations congolaises, Witt Mulongo, pour ne pas le citer, à l'université de Lubumbashi. Mais ça n'a duré que le temps d'une saison. Par exemple, en face, au Congo-Brazzaville, hein, beaucoup de nos écrivains, beaucoup de Congolais d'ici, sont devenus de grands écrivains de l'autre côté, parce que là, ils ont trouvé des l'humus, un terrain enrichissant. Henri Lopez. Quelqu'un de Maluku ici, Sonny Laboutansi, Kimwenza et consorts. Bon, ils sont devenus Congolais, c'est leur choix. Enfin, Congolais, nous sommes tous Congolais. Congo, c'est le même pays. Mais je veux dire que même les écrivains vont là-bas, vont là où ils peuvent trouver de l'audience, ils peuvent trouver les conditions propices pour...
En RDC, ces conditions propices ne sont pas réunies.
Ici, il y a encore des gens qui craignent qu'on va les arrêter, parce que je me souviens de conférences que j'ai fait par-ci, par-là, notamment à Bukavu, on me disait qu'on va m'arrêter. Je présentais un texte, La Mangeoire. Professeur, vous n'avez pas peur qu'on va m'arrêter? Mais de qui va m'arrêter? Est-ce qu'ils lisent ceux qui arrêtent? Vous êtes sûr qu'ils lisent?
Bon. Le fait de présenter aussi une société pourrie, le Congo comme une société pourrie, est-ce que ce n'est pas une mauvaise image du pays que vous véhiculez, professeur?
Je vous dis que les fleurs poussent sur la pourriture. C'est sur les terrains pourris que les fleurs poussent. Il y a, c'est une façon de parler évidemment, beaucoup de choses que nous tous nous comprenons que ça ne va pas. Il faut que ça change. Et ça ne coûte rien du tout. Hein, c'est juste une volonté de le faire. Mais à côté de ça, il y a des choses admirables, hein. Il y a des choses intéressantes, incroyables que les gens fabriquent et font. Non, si le mot est un peu fort, je rectifie. Ça pourrit. On laisse des choses, des talents noyés dans la boue. Il faut vraiment un regard attentif, un regard généreux pour aider à ce que sur cette pourriture puisse pousser de belles fleurs. Et ça pousse, hein. Il y a des œuvres qui sont nées là-dessus, de là.
Alors on va souffler encore une fois, professeur. Je vous laisse le choix. Oui. Quelle chanson?
Ah, vous me laissez le choix.
Oui.
Là, on a écouté Cabrel.
Cabrel, oui.
Mon grand, j'aime aussi Charlotte Dipanda. Je l'aime beaucoup. Hein. Mais si ça ne vous dérange pas, Est-ce que vous avez ça? Oui, on peut trouver ça. Frédéric et Nina dans un coquillage.
Frédéric et Nina. Oui. D'accord,
dans
je pense qu'on peut
coquillage.
Trouver.
Dans un coquillage.
Se trouve une île au trésor, sans bateau l'on vainement chercher, ce mon cœur a su la trouver. Le vent chante nuit et jour, des chansons pour un grand amour, dans ce dans un coquillage, j'entends murmurer l'océan qui m'invite au voyage
vers la douce image du lointain rivage que je vois en rêvant. Cet été, une vague avait déposé ce coquillage enchanté qu'en riant tu m'avais donné. Et j'écoute bien souvent dans vos sons les petits enfants, la voix qui vient me parler. Tu es loin de moi. Dans un coquillage, j'entends la chanson de ton cœur. En rêve, je voyage. Je reste sage, revoyant l'image d'un merveilleux bonheur.
Charles Jungu Simba est celui que Grand Témoin vous présente aujourd'hui. Il est professeur des universités, écrivain et journaliste. Professeur, nous sommes à la fin de notre entretien. Une dernière question peut-être avant de nous séparer. Parlons un peu de l'engagement citoyen et politique des hommes des cultures. Professeur Charles Jungu Simba, comment vous, en tant qu'homme des cultures, écrivain, auteur, vous pouvez vous engager pour voir les choses que vous décriez dans vos ouvrages, voir ces choses-là changer.
Oui, il y a de plusieurs façons. Moi, je vous répondrai en tant qu'écrivain, mais je peux vous répondre aussi en tant qu'auteur, tout simplement. Mais je dis que ma grande préoccupation, c'est de faire en sorte que nous ayons affaire à des citoyens normaux. Retenez bien ce terme-là, normaux. La normalité, comme disait l'autre un président normal. Ça ne coûte pas grand-chose. Est-ce qu'on est obligé d'être ridicule? Est-ce qu'on est obligé de faire rire les gens en ne prenant pas au sérieux ses responsabilités et qu'on sort? Si, à travers ma littérature, si à travers mes écrits, je peux remettre en cause cette dérive qu'on voit, à laquelle on assiste, que les gens se disent, mais je suis né pour être heureux et rendre les autres heureux, à être normal. Mais je crois que j'aurais fait mon boulot, mon apostolat. Hein, mais regardez autour de nous, autour de vous, par-ci, par-là. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas si c'est la richesse, qui sont outrageusement riches, accumulateurs, c'est pas de la richesse. Ils accumulent. Et à côté, vous avez la misère la plus noire, Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi j'écrive? Ceux qui n'ont rien, évidemment, n'auront pas même de quoi payer un livre. Mais les autres, ben je fais en sorte qu'ils puissent se remettre en cause. Se remettre en cause, que nous soyons dans une société humaine. Et je crois que ce faisant, je participe à la manifestation d'une certaine démocratie, un certain... c'est pas une bonne gouvernance, machin. Ça, c'est comme écrivain, mais comme auteur. Bon, je donne la parole. J'ai publié beaucoup. J'ai, comme éditeur, j'ai donné la parole à beaucoup de nos concitoyens. J'ai fait beaucoup de livres, d'ouvrages où j'appelle les gens à dire ce qui ne va pas, à exorciser le mal qui nous entoure. Et ils le font. Est-ce qu'ils sont lus? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, nous aurons fait chacun notre apostolat. Moi, leur donnant la parole et eux la prenant pour dire ce qui ne va pas. Tant mieux. Il y a beaucoup de gens qui me disent à travers le monde, disent qu'ils apprennent beaucoup du Congo, à travers nos textes que à travers les discours, machin. Bon, j'ai parlé de pourriture, évidemment. C'est parce que je profite tout simplement de votre micro pour que les gens puissent s'indigner, hein, comme a écrit l'autre là. Puissent s'indigner, dire que voilà, ça ne peut pas continuer. Mais les sujets sont là, la situation que nous vivons, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. C'est incroyable. On s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Le bon Dieu nous dit, mais qu'est-ce que vous êtes devenus, mes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas? Bolia qui nini. Donc voilà.
Merci, professeur Charles Djungu Simba.
Kamatenda.
Kamatenda, j'ajoute.
Ça signifie, c'est lui qui parle beaucoup.
Je l'ai constaté, professeur. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Radio Okapi. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Willem Lungamba, qui était à la mise en onde, présentation et coordination. Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.